Prunette, vous n'entendez pas là-bas dans le fond?
Oui, vous entendez.
Je croyais qu'il y avait. En écoutant, on essaie de comprendre. Si on ne comprend pas, on note. Pour que ça profite. Autrement, c'est comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Ça coule et il n'y a rien qui pénètre. Alors on peut écouter indéfiniment et on ne travaille pas, on ne coopère pas. Et donc, on doit être autant que possible attentif et noter ce qu'on ne comprend pas. Il y aura dans l'après-midi, vous l'avez vu, des carrefours. Et les carrefours, on divisera en 5 groupes pour que ce ne soit pas trop nombreux. 10 dans chaque groupe, à peu près. Et vous direz vos questions, vos difficultés, ce que vous aimeriez qu'on pousse un peu. Et celui qui sera à la tête du carrefour pourra me le transmettre. Et alors, où je répondrai à certaines questions qui resteraient pendantes, où j'approfondirai certains aspects, où s'il y a des difficultés, des oppositions, j'essaierai d'y répondre. Donc, on fait exprès des cours et le carrefour pour que ça puisse y avoir un tout petit dialogue entre nous. Certainement, vous écoutez, je ne sais pas exactement si ça passe ou ça ne passe pas. Et comme je ne vous connais pas, vous me connaissez indirectement ou directement certains, c'est bon qu'il y ait ce contact plus direct par les carrefours. Vous pouvez, en écoutant, je crois, toujours avoir un petit papier sur lequel vous posez vos questions. Parce que si vous ne le posez pas tout de suite, vous oublierez. Et au carrefour, vous sortirez ces questions pour que on puisse profiter ensemble. C'est ici, dans ce lieu religieux, et tout spécialement à la veille de Noël, que nous faisons cette session. Je sais bien qu'à la veille de Noël, on aimerait mieux un sujet plus spirituel. Je comprends très bien. Mais après tout, le Verbe de Dieu s'est incarné pour être témoin de la vérité. Et ce que nous essaierons ensemble, c'est de chercher cette vérité au niveau de notre connaissance humaine. La grâce ne détruit pas la nature. Et je crois qu'une recherche loyale de la vérité purifie notre intelligence. Purifie notre cœur et nous rend plus capables de recevoir la lumière de foi. C'est pour cela que l'Église demande, et le Saint-Père tout spécialement, que de fait, on maintienne la philosophie saine, une philosophie réaliste dans l'Église. Même si en Sorbonne ou dans les diverses universités du monde, on enseigne d'autres philosophies. Il n'y a pas longtemps, j'ai été à Münster où j'étais invité par l'archevêque. Je lui ai demandé, puisqu'il y a une université assez florissante, je lui ai demandé, quelle philosophie enseigne-toi, Münster? Il a levé les épaules en disant, ça ne signifie rien. Il m'a dit, c'est terrible, parce que s'il n'y a plus de philosophie, il n'y a plus de théologie. Et il en était très conscient. Il n'y a pas que lui, hein, je vous cite lui, parce que c'est le dernier qui m'a dit ça, avec une telle force. Mais des quantités disent ça aujourd'hui, parce qu'ils sentent qu'aujourd'hui, dans les diverses universités d'État, il y a encore des petites universités libres qui enseignent une philosophie réaliste. Il n'y en a plus beaucoup. On les compte sur les doigts. Chaque fois que je vois le Saint-Père, il me dit, Père Philippe, où enseigne-t-on encore une vraie métaphysique? Parce qu'il sait, il a enseigné la philosophie avant d'être pape. Il n'y a pas beaucoup de papes qui étaient professeurs de philosophie. Vous les comptez sur les doigts. Mais là, actuellement, donc il faut comprendre que si la Providence nous a donné un pape qui a enseigné la philosophie, c'est pas pour rien. Et une philosophie qu'il voulait être vrai. C'est impressionnant, ça. Alors, profitons de cette grâce tout proche de Noël. L'aurore, le soleil va se lever à Noël. Et alors, on aura la pleine clarté. On est encore dans l'aurore, tout proche de cette grande révélation qui nous est donnée. Pour demander à l'Esprit Saint et à la Vierge Marie de nous aider. Parce que c'est toujours un labeur de chercher la vérité. Même si vous croyez l'avoir déjà, vous pouvez l'avoir plus. Et j'en suis convaincu. J'en sais la philosophie depuis 1939. Ça fait déjà un petit bout de temps. Eh bien, on découvre toujours. C'est ça qui est merveilleux. On découvre toujours. C'est pour ça que je ne peux pas vous prendre les notes de 1939. Parce que je ne pourrais plus les dire. Heureusement. Parce que ce serait triste si... Première année où on enseigne, on est stabilisé pour la fin de ce jour, hein, au plateau. Non. Je crois que si on cherche la vérité dans une perspective réaliste, c'est-à-dire qui respecte la réalité, qui respecte l'homme, on est toujours un chercheur. Et on cherche tout le temps. Et la foi augmente en nous ce désir de chercher. Parce que la foi nous donne une vérité plus grande. Mais veut que tout ce qu'il y a en homme, tout ce qu'il y a dans l'homme de grand, soit au service de la foi. Et notre intelligence ne peut être au service de la foi que si elle cherche la vérité. Une intelligence qui ne cherche plus la vérité ne peut pas être au service de la foi. Elle fait dévier. Je me souviens de cette conclusion que disait le père du Barle à Fribourg, à l'université de Fribourg. Où des théologiens très épris de Hegel l'avaient invité. Toute une série du reste, pas lui seulement, toute l'année, il y avait quelqu'un qui venait nous dire quelque chose sur la philosophie hegelienne. alors il a dit, c'est génial, Hegel. Mais surtout, si vous êtes des théologiens, il parlait pour les théologiens, si vous voulez des théologiens, surtout, ne faites pas une théologie avec Hegel, vous perdrez la foi. Et on l'avait invité pour montrer l'importance d'Hegel. Voilà. À ce moment-là, ceux qui l'avaient invité ont piqué un nez. Mais il dit, c'est la vérité, c'est vrai. La théologie peut enfouir la foi. Parce que ce n'est plus une philosophie qui cherche la vérité qui est au service de la foi. Alors elle fait dévier, comme l'exégèse peut faire certaines exégèses, peut enfouir la foi. Alors, on est averti, on le sait, on veut essayer de chercher la vérité. Je voudrais, dans ce premier contact qu'on a ensemble, comprendre où se trouve la philosophie actuellement. Mais il faudrait faire une grande vision aérienne de l'origine de notre philosophie en Europe. Ne cherche plus que la philosophie à la mode plutôt que de chercher la vérité. Il faut se poser ces points d'interrogation. Le point de départ de notre philosophie européenne, c'est la Grèce. Et au-delà de la Grèce, mais très au-delà de la Grèce, l'Inde, parce qu'il y a eu des contacts, plus qu'on ne pense. Aujourd'hui, on est très attentif à ça. Alors, la philosophie grecque commence avec Hésiode, 8e siècle avant Jésus-Christ. Hésiode est un poète. Hésiode est un théologien à la manière du temps. Théogonie. C'est curieux que la philosophie ait commencé par ces deux grands ouvrages d'Hésiode. Théogonie, donc de la naissance des dieux. C'est une théologie très spéciale. Il y a des tas de choses dedans. Il y a à boire et à manger hein, dans la théogonie des Hésiodes. Extraordinaire. C'est très étonnant. J'ai dû enseigner cela. Ça m'intéressait toujours énormément de voir ça. Parce qu'il y a une projection sur l'Olympe de tous les sentiments humains. Alors voir la première colère des dieux, c'est quand même impressionnant. Tel qu'Hésiode la comprend. La première colère des dieux. Voir le tragique en Dieu, tel qu'Hésiode. Toutes les grandes traditions religieuses qui sont là présentes. C'est un livre extraordinairement intéressant qui intéresse les historiens de la religion. C'est la première théologie, on ne peut pas nier. C'est la première fois où on essaie de comprendre l'ordre qui existe en Dieu. C'est bien ça le théologien. C'est sur l'ordre qui existe en Dieu. Et pour lui... Il y a trois sources. L'abîme, la terre et l'amour. C'est la trinité des Hésiodes. Alors ce qui est très très curieux, c'est que de l'abîme, il voit toute une série de dieux et déesses. De la terre également. Et l'amour reste l'amour. Parce que rien n'est au-dessus de l'amour. première philosophie de la famille. La philosophie a commencé par une réflexion sur le travail. Les travaux et les jours. Et c'est le point de vue du travail en famille. Le laboureur, l'agriculteur. Alors il a une vision sur la femme qui n'est pas très très belle. Hein. Il donne un conseil. Un conseil quand tu te maries. Il faut avoir deux bœufs et choisis surtout une femme qui travaille. Qualité dominante. Autrement, elle sera le frelon à la ruche. Tout ce que tu gagneras, elle le dépensera. Et elle n'aura d'autre amour que de dépenser tout ce que tu gagnes. Le frelon dans la ruche. C'est très curieux. Vous voyez, ces deux extrêmes, ce réalisme religieux et terrestre. Et on touche là, peut-être, la source de toute recherche de vérité. Les yeux fixés sur le ciel et les pieds sur la terre. C'est bien ça, le réalisme. Parce que quand vous êtes réaliste, n'ayant que les pieds sur la terre, votre réalisme ne va pas très loin. Il faut avoir les yeux fixés sur le ciel. Et quand vous avez les yeux fixés sur le ciel et que vous n'avez pas les pieds sur la terre, vous tombez dans un puits et dans un ravin et dans l'abîme. Alors il faut ce double réalisme. Et toute la philosophie grecque commence par là. Alors, je ne veux pas voir toute la philosophie grecque parce que ça nous prendrait beaucoup trop de temps, mais je voulais vous montrer le point de départ. Et la grande montée ne peut pas nier sur les trois. Socrate, Platon, Aristote. Il ne faut jamais l'oublier. La philosophie s'est nouée avec Socrate, par l'éthique. Connais-toi toi-même. Elle s'est développée d'une façon étonnante avec Platon. Platon, c'est le grand philosophe poète, un philosophe idéaliste, mais très réaliste, mais idéaliste, extraordinaire. Ce grand livre sur la République, sur la justice. Et avant ces trois, il faut retenir Parménide. On y reviendra un tout petit peu. Parménide. Et Héraclite. Parce qu'ils se complètent admirablement. Après ces trois, on voit un succès d'années étonnant chez les néoplatoniciens. Pas beaucoup de succès d'années chez Aristote. Quant à Socrate, on ne cesse de parler de lui, surtout la mort de Socrate. Il reste chez les stoïciens le grand, grand modèle. Donc, première période de la philosophie de notre Europe, sa naissance. Je crois qu'on peut dire que les Grecs sont les sources de notre philosophie. Et d'une certaine manière, quand on regarde attentivement la philosophie grecque, on voit que philosophiquement, toutes les sources, tous les points de départ de la philosophie nous ont été donnés. C'est ça qui est très étonnant. Comme toutes les modalités de la philosophie éthique. Il y a eu le grand événement de la foi chrétienne. Vous voyez, et la philosophie, la recherche de la vérité, le travail, le réalisme du travail. Pour essayer de quelqu'un qui ne travaille pas, ne cherche pas la vérité. Il y a le travail, c'est absolument indispensable. Et le travail premier, c'est le travail de celui qui travaille la terre. Parce que la terre est faite pour être travaillée. Et la terre appelle le travail de l'homme. Donc il y a ce sens très très fort de l'homme travailleur. Le sommet sera donc Socrate, Platon, Aristote. Je crois que ce sont les trois grands qui terminent la philosophie grecque. Après, on est en face de commentateurs. Socrate est source de l'éthique. Platon est source de la République et de la contemplation. Et Aristote va revenir très fort à l'homme. C'est le philosophe de l'homme. Très, très profondément. Et l'homme dans toutes ses dimensions. Grand événement ensuite, la foi chrétienne. Quand on a la foi chrétienne, le mystère du Christ. Jésus n'est pas venu en philosophe. Il est venu comme fils bien-aimé du Père. Nous révéler la paternité. Il nous révèle que Dieu est notre Père. Il nous révèle ce qu'est la paternité. Et la grandeur de la paternité. Et le Christ vient après cette période tout à fait particulière de l'Ancien Testament. Toute la grande préparation. Mais l'Ancien Testament reste très, je ne dis pas en dehors de la philosophie, ce ne serait pas vrai. Il y a eu une influence grecque. Les livres Sapientiaux. Des livres de la sagesse qui ont eu une grosse influence sur ce que représente la grande tradition de l'Ancien Testament. Ce qui est sûr, c'est que la foi chrétienne apporte le salut. Alors, est-ce que la foi va faire disparaître la philosophie? Grand problème. On pourrait croire que la foi fait disparaître la philosophie, parce que c'est une sagesse de vie. Une sagesse de vie tellement forte, tellement au-dessus de la philosophie, qu'on pourrait dire que la philosophie va disparaître. Ce qui est très étonnant, c'est qu'au moment du Christ, aussi bien le côté révélation juive que révélation chrétienne, il y a un retour à la Grèce, à la philosophie grecque. Philon, le premier grand théologien juif, on le met très en honneur aujourd'hui. Le père Daniel Loire met Philon très en honneur. Et c'est vrai que c'est très étonnant, puisque Philon, théologien juif, parle beaucoup du logos. Le fameux logos de Saint Jean. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est de voir que la foi chrétienne a la place d'évacuer la philosophie. La foi chrétienne va utiliser la philosophie pour donner la théologie. Ce que saint Thomas aimera d'appeler à la suite des pères de l'Église la doctrina sacra. J'aime bien vient d'appeler la théologie la doctrine sacrée. C'est quelque chose de très, très net. C'est une doctrine qui implique la foi. Vous voyez, au fond, la foi chrétienne va être un ferment, un levain pour toute la philosophie grecque. Et alors, la première philosophie qui est assumée, c'est la philosophie stoïcienne. C'est-à-dire la morale stoïcienne. Puis, ce sera le néoplatonisme. Avec Platon. Et Aristote. Mais surtout le néoplatonisme et Platon. Voyez Saint-Augustin. Saint-Augustin pour les Latins. Maxime le Confesseur, chez les Grecs, utilisera le premier Aristote. Et du côté latin, Saint Thomas, qui reviendra très profondément à Aristote pour une théologie. Saint Thomas n'a jamais eu le souci d'élaborer une philosophie. C'est un théologien. Il est chrétien, pleinement et totalement. Donc, d'où sert sa foi? Je crois que c'est très important de comprendre ça. Donc, on a ce second moment, le grand problème de la foi chrétienne et de la philosophie. On l'a pas rejeté. On aurait pu dire on a quelque chose de plus, on n'a plus besoin. Et pourquoi les théologiens, les pères de l'Église et les théologiens n'ont pas rejeté la philosophie? Parce qu'elle était une recherche de vérité. Et si elle était une recherche de vérité et que la foi nous donnait la vérité, la recherche de la vérité n'était pas à mépriser, puisque on recevait la vérité dans une attitude de croyant. Donc, dans l'obscurité de la foi et la certitude de la foi, et que la grâce ne supprime pas la nature, et que la foi ne supprime pas l'intelligence. Qu'est-ce qui est arrivé en chrétienté? Il y a eu, avec le 14e siècle après saint Thomas, une théologie qui est partie dans tous les sens. Absolument dans tous les sens. Il y avait toujours une recherche de vérité, mais très diverse. Assez anarchique. 14e, 15e siècle, c'est très anarchique. 16e aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Troisième moment. Il faut mettre un troisième moment. Descartes. Pour notre philosophie européenne, il est évident qu'avec Descartes, on a un nouveau moment. Il y a une rupture qui se fait. Descartes veut libérer. Vous voyez, c'est la philosophie de la libération. Descartes, c'est le philosophe de la libération. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est le philosophe de la liberté. C'est le philosophe de l'infini. C'est Descartes veut montrer que l'intelligence humaine peut par elle-même atteindre non pas la vérité, mais la certitude. C'est la certitude que Descartes cherche, avant tout. Et Descartes veut se libérer du joug des théologiens. Parce que les théologiens, quand ils ne cherchent plus la sais, par expérience. Et c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'ils s'imposent, vous voyez. Ils deviennent des dogmaticiens. Ils s'imposent. Ils ne cherchent plus la vérité. Parce que quand on cherche la vérité, on reste humble. Parce qu'on sait qu'on n'est pas la vérité. On la cherche. Mais le jour où on s'identifie avec la vérité, c'est très dangereux. C'est catastrophique. On devient un tyran de l'intelligence. Vous voyez. Celui qui veut libérer l'intelligence devient le tyran de l'intelligence. C'est très curieux. Mais c'est comme ça. Et Descartes, je ne dis pas qui est tyran Descartes, mais Descartes dit ouvertement, il le dit explicitement, je tourne le dos à Aristote. Parce qu'il sait que depuis Thomas d'Aquin, Aristote a pénétré chez les théologiens. Alors, il veut libérer l'intelligence en tournant le dos à Aristote. Et là, il le dit expressément, hein, donc c'est pas moi qui interprète. Je le dirais, moi. Il tourne le dos à Aristote. Comment tourne-t-il le dos à Aristote? C'est qu'il met non plus l'expérience de la réalité au point de départ, mais les idées. Ce libérateur de l'intelligence veut que toute la philosophie ait comme point de départ les idées innées. Descartes a des idées innées. Dans son berceau, Descartes a eu des idées innées. Tout de suite. Il ne les acquiert pas. Et c'est ça sa certitude. Mais pour que la certitude soit parfaite et que la recherche de la vérité soit possible, il faut que Dieu soit garant de la vérité. Vous voyez, c'est très curieux. Dieu n'est plus cherché pour lui-même, mais il est cherché pour être garant de la vérité. C'est là où on voit comment Descartes a été tellement marqué par les théologiens que Dieu n'est pas au point de départ, mais Dieu est garant de la vérité. Il n'y a pas possibilité d'atteindre la vérité si Dieu n'existe pas. Et c'est les idées qui viennent de Dieu qui sont le point de départ de sa philosophie. Et ces idées, c'est l'idée d'infini et l'idée de liberté. Tout repose là-dessus. Quand on regarde attentivement Descartes, avec le point de vue d'une philosophie nouvelle, ah ça c'est tout à fait net, Descartes veut donner une philosophie nouvelle, alors que tous les théologiens d'avant s'appuyaient sur la philosophie grecque. Donc là il y a un renouveau, une nouveauté de Descartes à Hegel. On est dans cette même perspective. Progressivement, on verra la naissance des idéologies. Parce que si on veut regarder attentivement, ce qui se passe depuis Descartes à Hegel, il y a différentes périodes, hein, c'est évident. Je donne une vision aérienne, mais il y a un lien, ça on ne peut pas nier. Il y a un lien entre eux, parce qu'on est en face d'une subjectivité transcendantale, puisqu'on part des idées. Entre deux, il y a Kant. Kant, c'est un métaxu, l'intermédiaire. Kant est en opposition vis-à-vis de Descartes, et pourtant, il est proche de lui. Hegel est en opposition vis-à-vis de Kant. Et pourtant, il y a quelque chose qui dépend. C'est très curieux, ça. Alors, évidemment, il y a différents courants. C'est pas le seul courant, mais le grand courant qui domine, ce sera ce qu'on appelle l'ontologisme. c'est vrai, quand tu es dans nos positions violentes vis-à-vis de l'ontologisme, c'est très net. Et cependant, il est encore lié à l'ontologisme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ontologisme ? L'ontologisme, c'est ne plus distinguer l'intelligibilité et le réel. Tout ce qui est intelligible est réel. Et à partir de l'intelligibilité, on regarde le réel. On se plonge dans le réel. Et voyez, Heidegger, qui veut se séparer, puisque entre Heidegger et Heidegger, et Heidegger, entre Hegel et Heidegger, il y a cette position très particulière de la féminité du seul. Les trois âges, on va les oublier. Il y a la philosophie du CERN, qui est la fémologie. Réflexion sur le vécu. Descartes, réflexion sur les idées. Et puis, réflexion sur le vécu. Et comme c'est curieux, la philosophie, à partir de Descartes, prend une attitude réflexive. Avec un primat de la critique. Philosophie réflexive. Et pourquoi ça ? C'est à cause de la naissance des sciences. Descartes s'appuie sur les mathématiques. Descartes est séduit par les mathématiques. Vous savez bien, tout son idéal, c'est de montrer que les preuves de l'existence de Dieu ont un modo géométrico. Modo géométrico. On ne peut être vraiment certain que quand on est en mathématiques. En mathématiques, on est certain. Et tant qu'on n'a pas une connaissance modo géométrico, on n'a pas la certitude absolue. Il est séduit par les mathématiques. Ça joue un rôle très très important sur Descartes. Kant est séduit par la physique moderne. Donc voyez bien, c'est la naissance des sciences modernes à partir des mathématiques. C'est le règne des mathématiques. Avant, c'était la métaphysique. Et la métaphysique va laisser la place, ou plus exactement, les mathématiques vont prendre la place. Et vous avez tout le développement des sciences modernes à partir des mathématiques, qui joue un rôle analogue à la métaphysique au Moyen-Âge et chez Aristote. Alors, on a ce développement. Kant veut le réalisme de la physique. Il veut rester dans le réalisme de la physique. C'est pour ça qu'il critique les preuves de l'existence de Dieu à partir de Descartes qui sont fondées sur l'ontologisme. Il dénote cette confusion d'ontologisme. Hegel reprend un ontologisme absolu. Et Heidegger va essayer de retrouver penser l'être. On aura un ontologisme fondamental. Ce n'est plus l'ontologisme des idées du vécu. C'est un retour, un désir de penser l'être. Qui n'est ni une idée, ni le vécu. Alors, avec Heidegger, on est tout proche de la philosophie contemporaine. Mais il faut bien comprendre qu'à partir de Hegel, Hegel va jouer un rôle très très important en philosophie. Les mathématiques et Hegel. Faut pas l'oublier. Il faut pas oublier que Husserl fait un doctorat en mathématiques. Et à partir de là, il fait sa phénoménologie. Donc c'est encore l'influence mathématique dans Husserl qui demeure et qui revient. Et Husserl commente les méditations cartésiennes qui sont au cœur de toute sa philosophie, où il essaie de montrer ce lien très fort avec Descartes. Donc c'est bien les idées qui dominent. Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire que il y aura tout ce développement très important qu'on doit comprendre des idéologies athées ou des idéologies qui essaient de redécouvrir l'homme et uniquement l'homme à partir de Hegel. On voit cet éclatement des idéologies. Alors, quelle différence y a-t-il entre philosophie et idéologie ? C'est que la philosophie est au service de l'homme, tandis que les idéologies veulent dominer l'homme. Je crois que ça, c'est très très important de comprendre ça. Parce que, au fond, le mot philosophie demeure, mais le mot philosophie prend une signification tout autre, et qui sont des idéologies. Et vous avez cette grande forme d'idéologie athée depuis Hegel, où on rejette absolument l'existence de Dieu. C'est pour ça que ce sont des idéologies athées. Et on ne voit plus que l'homme. Le philosophe ne s'intéresse plus qu'à l'homme, mais dans une perspective réflexive sur le vécu de l'homme. Ce n'est plus une attitude réaliste, c'est une attitude réflexive. Alors, il est bien évident qu'à travers tout cela, il y a eu des efforts philosophiques de maintenir le réalisme. Mais, j'allais dire, ce n'est plus la philosophie officielle. C'est des écoles qui se maintiennent. C'est quelque chose qu'on considère un peu marginal. On restera thomiste, maritain. Maritain n'est pas influencé par Hegel. Bergson avant Maritain. Mais Bergson est influencé par la science. Il part de la science biologique. Il est d'abord positiviste. Puis il découvre progressivement autre chose. On ne peut pas dire que c'est un idéologue, personne. C'est un certain réalisme. Vous voyez ? Mais on ne peut pas dire que Bergson a eu l'influence de Hegel. Non. Ça reste un témoin, un grand témoin. Vous avez aujourd'hui Lévinas. Et Lévinas, qu'est-ce qu'il est ? En opposition vis-à-vis de Heidegger et dans la phénoménologie. Vous voyez, il fait partie des trois âges. Hegel, Heidegger, la phénoménologie du cerveau. Et je crois que ces trois tiennent beaucoup aujourd'hui. Ça fait un trio extrêmement puissant qui se tient du reste. Parce qu'il y a des infiltrations. Heidegger a été disciple de Husserl, puis il s'est séparé. Donc il est resté quelque chose. Il s'est séparé pour redécouvrir un certain réalisme, l'oubli de l'être. Puisque Husserl en est devant le vécu. 11h30. Donc vous avez un petit...
Session de philosophie par le père Philippe Arimont, le 21 décembre 91, deuxième cours.
De la philosophie européenne, puisque nous sommes en Europe. Vous savez, en Amérique, on trouverait des choses très semblables. Alors il y aurait l'Inde. C'est sûr que l'Inde représente, au point de vue philosophique, quelque chose de très particulier, mais beaucoup plus toujours attaché aux traditions religieuses. Il n'y a pas ce même phénomène très curieux propre à l'Europe et les conséquences en Amérique. Que vous avez la philosophie face aux traditions religieuses. Elle est née dans ce milieu. La philosophie face à la foi chrétienne. La philosophie face à la science. Je crois qu'il y a trois grands moments très différents. À la science mathématique, aux sciences physiques, aux sciences biologiques, aux sciences psychologiques. Et c'est le problème actuel, pratiquement. Alors, où il y a opposition, où il y a assimilation, où il y a entente, on retrouve toujours ces trois aspects-là. C'est très curieux de voir ces trois grands moments. Et les traditions religieuses, ça joue plus beaucoup aujourd'hui. Hein. La foi chrétienne, avec les idéologies athées, mais la science. Dernier livre de Guiton, si on ose dire, c'est la philosophie absorbée par la science. Il n'y a plus de pensée philosophique chez Guiton. Il n'y a qu'un souci apologétique. Montrer que, mais oui, tout le monde va dans le même sens, comme on est heureux. On va peut-être faire un abîme, mais ça n'a pas d'importance. On va tous dans le même sens. Est-ce qu'on est dans la vérité? Ça n'a pas d'importance. On est tous dans le même train. Où on va? C'est pas très bien. Mais une banque. Très très curieux ces choses-là. Il y a une absorption constante aujourd'hui de la philosophie par la science. Ça a commencé avec Descartes. Ça c'est très net. Alors, je ne vois pas tous les détails. En gros, on dira, il y a un ontologisme qui commence par les idées. L'ontologisme, on commence par les idées, l'intelligibilité des choses. Et de là, on rejoint le réel. Vous voyez, Descartes dit qu'il tourne le dos à Aristote tout simplement parce que lors des interrogations chez Descartes, et chez Aristote est différent. Et ça, c'est génial de la part de Descartes d'avoir dit ça. C'est très lucide. Et on peut dire que c'est toujours le même problème. On est devant le même problème que Descartes. Si on veut réfléchir. Alors Descartes dit que pour lui, le problème, c'est première interrogation, qu'est-ce ? La signification, des idées. Quelle est la signification des idées? Qu'est-ce? Deuxième, est-ce que cela existe? Donc, on passe des idées à l'exister. Avec des modalités très différentes. Dans l'ontologisme, on identifie. Mais pour Descartes, on passe des idées à l'exister. C'est les idées qui sont premières. une signification. Jusqu'à nouvel ordre. Bon, quand vous avez une idée, on vous demande quelle est la signification de cette idée. De la signification. De qu'est-ce ? Ah, est-ce que ça existe ? Tandis que pour Aristote, c'était l'inverse. Première question, cela existe-t-il ? Deuxième question, qu'est-ce ? Oui. Donc, il y a deux ordres différents. C'est très étonnant, c'est là la révolution qu'opère Descartes. Il met l'idée avant. On met le vécu avant. L'idée, c'est le vécu d'intelligence. Pendant toute la nuit, j'ai eu une idée qui me trottait. Hein, j'ai une idée. Il y a des jours, vous n'en avez pas, il y a du brouillard. Hein. Il n'y a rien du tout. Mais il y a un vécu ténébreux. Vous êtes fait du mauvais pied. Toute la journée, vous restez. Ah, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Pourquoi ? Ah, vous ne savez pas très bien. C'est le vécu. C'est le fond. Puis au contraire, hein, des gens. Hein, aujourd'hui, ce qui fait beau, c'est magnifique. Il y a du soleil, regardez. Il y en a, mais oui, parce qu'il est derrière. Mais il existe. Il existe. Oui, alors, cette inversion, ça n'a l'air de rien. Et c'est. Deux orientations totalement différentes. Mais c'est ce que dit Aristote. L'erreur au point de départ a d'immenses conséquences après. Quand on est en Suisse, on voit la source du Rhin et la source du Rhône. J'étais les voir, forcément, quand on est en Suisse. Ça fait partie d'une promenade intéressante. On voit que c'est pas loin, le Rhône et le Rhin. Deux fleuves totalement différents. Deux spiritualités totalement différentes. Le Rhône et le Rhin. Ils sont partis presque en même temps. Ça n'a l'air de rien, ça. Deux interrogations, l'ordre. Et à partir de là, c'est vraiment une révolution philosophique de la pensée. Et tout dépend de la vie pour notre Europe. Hein. Le nœud est là. C'est important de saisir ça. Après, il y a des modalités très différentes, c'est évident. Alors, il y en a qui restent fidèles à Aristote, Thomas d'Aquin, puis tous ceux qui sont dans la ligne de Thomas d'Aquin et qui reviennent à Aristote. Alors, pour eux, c'est d'abord l'expérience. Est-ce que ça existe ? Je fais la philosophie de ce qui existe. Je ne fais pas la philosophie des possibles. Je me souviens quand j'étais à Fribourg, un groupe de gens intelligents et chercheurs de Genève, ce savant artiste, m'avait invité. Quelle est votre idéologie pour l'an 2000 ? C'était le titre de la conférence. J'ai accepté parce que c'était tellement drôle. Mais ça vaut la peine de répondre. Quelle est votre idéologie ? Alors j'ai dit, j'ai pas d'idéologie. Et j'ai répondu quand même à votre appel. Je vais vous montrer que l'idéologie, c'est une fausse piste. Ce n'est plus une philosophie. C'est une dégradation de la philosophie. Et donc, je n'ai pas d'idéologie pour l'an 2000. Qu'est-ce que sera l'an 2000 ? Grâce aux prières du pape, ce sera merveilleux. Grâce aux prières du pape, le Christ reviendra dans sa gloire. Alors ce sera merveilleux. Grâce aux prières de toute l'Église. Qu'est-ce que sera l'an 2000 ? Un super TGV. Ce sera l'an 2000. On fera des choses merveilleuses. On pourra avoir une espèce humaine de géant. Parce que maintenant, on peut avoir des vaches qui sont trois fois plus fortes. Une espèce de géant. Mais des tout petits, tout petits, tout petits, tout petits. On sera réduit à des petites fourmis. On dira bonjour quand même. Des petites fourmis intelligentes. On dira bonjour. 2000. On en rêve, les idéologies, le possible. Alors, c'est intéressant de voir ça, parce que tout est là. Est-ce qu'on fait une philosophie pour connaître l'homme ou pour connaître le possible? Est-ce qu'on fait une philosophie pour chercher la vérité? Et la vérité, c'est de reconnaître que la réalité est avant nous. Avant notre naissance, le monde existait. C'est pas moi qui ai inventé le monde. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître ce monde et connaître l'homme. Avant que je naisse, il y avait déjà des hommes. Je ne suis pas l'homme en soi. Si la philosophie est la philosophie des possibles, ou alors partez dans l'imaginaire, toutes les représentations possibles. Mais j'aime mieux laisser l'artiste. Dans l'ordre des possibles, l'artiste est bien plus capable que le philosophe. Dans l'ordre des possibles, le matheux est bien plus capable que le philosophe. Parce que le mathématicien est dans l'ordre des possibles. Et l'artiste dans l'ordre des possibles. La différence, c'est que l'artiste a les deux pieds sur terre. Tandis que le matheux, le haut plateau. Tout le temps, entre ciel et terre. Ça, c'est le matheux. C'est l'ordre des possibles. Alors, du possible, on se demande, est-ce que ce possible peut exister? Je comprends très bien l'application. Il faut atterrir. Quand vous êtes toujours à 100 000 mètres de hauteur, le matheux, 100 000 mètres de hauteur, oui, mais il faut descendre. Heureusement que la soupe se fait toute seule. Il faut redescendre pour le réel, quand même. Parce que je ne suis pas un être mathématique. Mais le possible et le réel, au fond, on est en face de deux. Et alors, de Descartes est né ce qu'on a appelé l'ontologisme. Parce que c'est vraiment ça l'ontologisme. On part des idées. On part de l'intelligibilité. On se demande et on identifie cet intelligible avec le réel. Oui, de l'intelligible au réel. Alors on dira l'intelligible de droite égale l'intelligible de gauche, les idéologies athées. C'est gros, mais c'est comme ça. On a introduit la politique dedans, la gauche et la droite. L'intelligible de droite, on reconnaît que Dieu existe. Et toute la pensée, elle est en Dieu. Toute la pensée de Hegel est en Dieu. C'est une théologie. Une théologie des possibles. Et ce possible poussé à l'extrême rejoint au nécessaire. C'est Dieu. Quand le possible et le nécessaire sont identiques, je suis en face de Dieu. Et c'est vrai, parce que cherchez bien, vous ne trouverez jamais le possible identique au nécessaire en dehors de Dieu. Dieu est source de tous les possibles. Rien n'est impossible à Dieu, donc il est le nécessaire. Évidemment, ce n'est pas ça du tout Dieu, hein. C'est une idée. Donc, l'ontologie de droite égale, on pourrait dire, vous voyez, que l'ontologie avec Hegel atteint son sommet. Je crois qu'on ne peut pas aller plus loin. Et au terme, Hegel et Dieu, ça ne fait qu'un. Ça ne fait plus qu'un. Donc c'est maximum d'affirmation de Dieu. Le « je suis » de Dieu et le « je suis » de Hegel se rejoignent. Et Hegel dit qu'il est à partir de Dieu et en Dieu. C'est très extraordinaire, ça. Et c'est, au fond, l'ontologiste de droite, l'absolu. Tandis que l'ontologiste de gauche s'est montré que dans la position de l'ontologisme, on mutile l'homme. Parce qu'on ne peut pas définir l'homme en dehors de Dieu. Et donc, on ne voit pas l'autonomie de l'homme. Et l'ontologie de gauche, avec Feuerbach, voudra redécouvrir une autonomie de l'homme. Vous voyez ? La même démarche que Descartes. Descartes veut se libérer des théologiens. L'ontologie de gauche, Feuerbach, veut se libérer de Dieu. Alors on appellera ça la mort de Dieu. Sartre fait partie de ces idéologies athées. Et pour Sartre, l'homme n'est libre que si Dieu n'existe pas. Pour Nietzsche, l'homme ne peut être créateur que si Dieu n'existe pas. Parce que si le créateur existe, Nietzsche est nécessairement un créateur relatif au premier créateur. Et donc il n'est pas le créateur absolu. Et c'est très gênant. Vous voyez ? À côté, encore une fois, l'ontologie prendra des formes très très variées. Mais on pourrait dire, vous voyez, que le structuralisme, c'est une forme d'ontologisme. Que toutes les modalités de la philosophie contemporaine, la philosophie du langage, c'est une forme d'ontologisme. C'est l'ontologisme, c'est très très puissant. Et l'ontologisme naît du néo-platonisme. Et Platon a donné naissance au néoplatonisme. Le néoplatonisme a donné naissance à l'ontologisme. Et l'ontologisme de droite se termine en Hegel. Heidegger, il est ni droite ni gauche, il est lui. Il pense l'être. Mais il reste comme ça. Et puis l'ontologie de gauche, toutes les idéologies athées d'aujourd'hui. Alors, c'est une vision aérienne, mais qui est très importante, parce qu'on voit qu'en définitive, tout revient au point de départ de la philosophie. Donc, deuxième question, quel est le point de départ d'une philosophie qui cherche la vérité ? Alors pouvez-vous me dire, est-ce que dire que la philosophie cherche la vérité, est-ce un a priori ? C'est intéressant de se poser la question. Je me pose la question, dire que la philosophie cherche la vérité, est-ce que c'est un a priori ? Ou c'est tout simplement ce pourquoi la philosophie existe. Pour moi, affirmer que la philosophie recherche la vérité, c'est revenir au berceau de la philosophie. La philosophie a commencé dans une recherche de vérité. Et c'est peut-être parce que le philosophe a découvert que rechercher la vérité, c'était se relativiser, que l'orgueil, l'hubris, comme disait Grec, l'orgueil a fait qu'on n'a plus voulu chercher la vérité. Et on s'est replié sur le sujet, recherche de la certitude. Descartes. Alors vous pourriez dire qu'au fond, il y a là encore deux perspectives. La perspective de celui qui recherche la certitude, l'harmonie, l'équilibre, le tout, le système. Avoir un beau système, bien harmonieux. Avoir une armoire de la pensée, parfaitement, avec toutes les étiquettes. Ou bien au contraire, la recherche de la vérité. Être celui qui constamment cherche la vérité.
système, c'est tout. Avoir une philosophie qui prend tout. Une philosophie de la vérité. Une philosophie qui est tout le temps relative à la réalité. Et parmi les réalités que je saisis, la plus parfaite, c'est l'homme. Parmi toutes mes expériences humaines, je n'ai pas découvert de réalité plus parfaite que l'homme. Si vous en avez découvert de plus parfaite, notez-le. Oui, si vous avez été en Mars, les Martiens sont peut-être plus parfaits. Je me souviens, on avait fait cette blague une fois, étant en Dominicain, la nuit, ça fait bien, c'est blanc, et on n'avait plus d'essence. C'était en Belgique. Il faut des cartes, vous voyez, terrible. On n'en avait pas. Alors j'ai dit, arrêtez une voiture. On peut demander l'essence. On s'est demandé qu'on était. On vient de Mars. Et ils nous ont cru. On vient de Mars. C'était la nuit, vous comprenez, on était habillés comme ça. Ils se demandaient ce que c'était. Il manquait une perruque et une barbe. Parce que c'est quand même intéressant de rencontrer un martien. Vous voyez, soucoupe volante. Pendant un temps, les soucoupes volantes, c'était sur le marché, n'est-ce pas ? Il y avait des spécialistes des soucoupes volantes qui n'en avaient pas raté une. Ben, il y a quelque chose. Des êtres qui viennent, on ne sait pas trop d'où. J'ai atterri à partir d'une soucoupe volante. Alors, si vous regardiez, c'est très curieux. La seule chose qu'on n'avait pas, c'était le toucher. On n'avait jamais touché un type qui venait dans la soucoupe volante. Jamais. On les avait vus atterrir à la vitesse extraordinaire. On était emportés. Et touchés, non. Est-ce que ça existe ? C'est une idée. Est-ce que ça existe ? Ça n'existe pas. Je ne pouvais pas faire la philosophie du martien tant que je n'avais pas serré la main. Tant que je n'avais pas parlé avec lui. Même s'il parlait une autre langue, on serait arrivé à se comprendre. Encore. Qu'est-ce que c'est ? Bien là, on est arrivé comme ça à se comprendre. Alors, je me pose la question, quel est le point de départ d'une philosophie qui cherche la vérité ? Parce que je considère que la philosophie est faite pour découvrir la vérité, et pas seulement pour me rassurer. Qu'elle me donne des certitudes, c'est très vrai, parce que la vérité est source de certitude. Qu'elle me donne une indépendance, c'est très vrai, la vérité me donne mon autonomie. Tant que je n'ai pas découvert la vérité, je suis dépendant des propagandes, c'est-à-dire des opinions des hommes. Si je veux être moi-même, je dois chercher la vérité. La vérité me libère. La vérité me donne mon autonomie. La vérité me donne la certitude. La vérité me permet d'avancer et de découvrir ce qu'est l'homme. Alors, en philosophie grecque, puisque c'est la naissance de la philosophie, je vois qu'il y a des points de départ de la philosophie très divers. Alors, il faudrait noter tous ces points de départ. C'est intéressant, du reste. Quand vous lisez un philosophe, Le Sède, par exemple, ou Lavelle, pour être des philosophes proches de nous, quand vous lisez un philosophe, Marx, non, maintenant il est enterré, Lénine, parce que c'est après Marx et Lénine, et Lénine n'est pas enterré, hein. Dites-vous bien ça, le communisme est enterré, mais pas Lénine, et Lénine a dit cette chose très intelligente, parce que je connais un Dominicain qui a lu tout Lénine, vous entrez dans sa cellule, il n'y a que Lénine. Il n'y a que Lénine. Il a tout ce que Lénine a écrit. Et il a tout lu. Il est le seul. Lénine avant. Évidemment. Il a tout lu. Or, Lénine a dit cette parole. Le marxisme doit évoluer en fonction du progrès de la science. Oui, il y a des prophètes. Marx n'a jamais dit ça. Alors c'est pour ça qu'il y a des liens très très mystérieux entre Lénine, marxiste, le néo-marxisme de Lénine, et le positivisme, le progrès de la science. Il y a des liens secrets. Et au point de vue politique, c'est net. C'est assez très intéressant, oui. La philosophie vous aide à comprendre la politique. Ça, c'est sûr. Puisque la philosophie doit vous faire comprendre ce que c'est que l'homme dans toutes ses dimensions. Alors, on verra ces dimensions de l'homme. Alors, si je regarde la philosophie grecque, je vois que la philosophie commence par les traditions religieuses. Elle commence par l'expérience du travail. Puis, je vois que la philosophie commence avec Parménide, par une révélation. Parménide reçoit une révélation. Il donne la main à la déesse. Et à partir de là, il comprend l'être. Il faut donner la main à la déesse pour comprendre l'être. Parménide, c'est un poète, philosophe. C'est des choses très, très merveilleuses. L'être est entré dans la philosophie à partir de Parménide. Mais dans une inspiration, une révélation. Hésiode, Héraclite, au contraire, l'expérience du devenir. Et au-delà du devenir, il existe des réalités. Au-delà du devenir, qui vont beaucoup plus loin. Le pantarel, tout cool, n'est pas suffisant. Il faut découvrir quelque chose qui demeure. Et au fond, très vite, la philosophie a été entre l'invisible et le visible, la grande division, qu'on retrouve aujourd'hui, hein, puisque l'œuvre posthume de Merleau-Ponty, le visible et l'invisible. Division très grecque, ça, le visible et l'invisible, le devenir et l'être, le changement et ce qui ne change pas. Alors, voyez, comptez ces différents points de départ. L'autre point de départ sera l'expérience intérieure, l'intuition. Puis la révélation, c'est l'intuition. C'est la philosophie de Platon. Platon, c'est l'homme des intuitions profondes, artistiques, philosophiques, religieuses. Tout ça est dans le même sac. Dans Lyon. Platon dit ça dans Lyon. Le petit dialogue de Lyon. Dialogue très petit, mais qui est merveilleux. Où Platon dit que le philosophe, le mystique, le poète ont quelque chose de semblable. Sont des gens d'intuition. Ils ont quelque chose de semblable. Ne vous inquiétez pas, c'est pas le tonnerre qui tombe. Donc quelque chose de semblable, il commence par l'intuition. L'intuition poétique, l'intuition mystique, l'intuition philosophique. Et c'est grand, ça. Vous avez Bergson qui dira la même chose. Philosophie d'intuition. Alors, est-ce que la philosophie commence par l'intuition? Que le philosophe doive avoir des intuitions très justes. Mais est-ce que sa philosophie repose sur l'intuition? Descartes, un rêve. C'est l'intuition. De là, on parlera d'expérience interne. Tout le néoplatonisme, c'est l'expérience interne. Et Augustin, saint Augustin, l'expérience de l'amour, l'expérience de la vérité. Vous voyez, c'est très proche du vécu. L'expérience interne, c'est du vécu. Donc on retrouve ça. Et puis, Héraclite, Aristote, la philosophie commence par l'expérience, au sens fort. Pas l'expérimentation, hein. L'expérience, au sens fort. Alors, faites vos choix. Mais j'ai le droit de critiquer une philosophie qui cherche la vérité ne peut partir que de l'expérience, au sens le plus fort. Ça, c'est très, très important d'en avoir l'évidence. Le philosophe et toute philosophie veut toujours avoir un regard qui n'est pas limité. Le philosophe doit s'intéresser à tout. Pas également, mais comme tout est pour l'homme, s'il s'intéresse à l'homme, il s'intéresse à tout. Seule l'expérience externe, qui ne s'oppose pas à l'expérience interne, je précise, l'expérience externe, c'est quand mes sens externes sont engagés. C'est ce que Descartes a eu peur. Descartes, c'est un poltron. Il a eu peur de l'expérience. Donc il a eu peur de la réalité. L'expérience externe, elle est liée à la main. Et l'expérience externe implique toujours une expérience interne. C'est bien évident. Mais je vérifie toutes mes expériences internes par l'expérience externe pour savoir si cela existe. J'aime un ami. Je ne dirai pas seulement j'aime. Quelqu'un qui dit j'aime, 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 on est fou. Parce qu'on aime quelqu'un. Le jour où vous n'aimez plus quelqu'un, votre amour se dilue dans une espèce d'idéalisme absolu. Je suis l'homme de l'amour. Mais, ben oui, l'homme de l'amour. De l'amour de qui? Ah, en définitive de lui. Hein. Si vous dites que vous êtes l'homme de l'amour, c'est que vous vous aimez au-dessus de tout. Quand Descartes dit cogito, cogito, lui, je pense à moi. Ah, il ne le dit pas, parce que Descartes sait que c'est odieux de dire pense à moi. Et comme il est bien élevé, il ne dit pas je pense à moi. Mais au fond, cogito, c'est ce que Husserl dit, cogito, de quoi? Je pense à l'être. Je pense au vrai. Je pense à ma mère. Tout ça est légitime. C'est pas cogito. Tout court. Vous voyez, l'expérience interne est toujours une expérience qui est reliée à l'expérience externe. Toujours. Vous cherchez le lien. Donc, l'expérience interne n'est pas première. Si l'expérience interne n'est pas première et que je commence ma philosophie par l'expérience interne, il y aura quelque chose que je ne pourrai pas atteindre. La base. Or, aujourd'hui, c'est important, la base. Et donc, pour découvrir la base, il faut l'expérience externe. Le fondement, l'expérience externe. La réalité qui est autour de moi, l'expérience externe. j'aime mon ami. Mon ami, c'est Pierre. Il faut que j'atteigne Pierre pour voir quelle différence y a-t-il entre l'expérience que j'ai de Pierre et l'expérience de Pierre, mon ami. C'est pas la même chose. Avant que Pierre soit mon ami, j'ai connu Pierre. Tu te souviens la première fois qu'on s'est rencontrés, hein? On dit toujours ça. Et on se rappelle, la première fois, tu m'as fait peur à cause de ton grand nez. Tu m'as fait peur. Et maintenant, je t'aime. Alors je vois que c'est pas dangereux. On se rappelle tout le temps ces choses-là. Oui, la première fois. Première fois qu'on va dans une ville. On est arrivé la nuit. Et cette ville, vous voyez, les souvenirs qui sont l'expérience interne se rapportent toujours à quelque chose de premier. Donc je ne peux pas commencer la philosophie par l'expérience interne. C'est pas suffisant. C'est très intéressant, mais c'est pas suffisant. Je risque de m'enfermer en moi. Et donc je ne suis pas dans la vérité. Parce qu'il y a d'autres réalités que moi. L'intuition, elle n'est jamais première. Rappelez-vous la première intuition que vous avez eue. La première intuition que vous avez eue. Avant d'avoir des intuitions, il y a des tas d'expériences. Oui, je sais, faut le serrer. Parce que... Voilà. Comme ça, il est obéissant. Suppose toujours une quantité d'autres expériences. Rappelez-vous les intuitions que vous avez eues. J'espère que vous en avez eues. Parce que c'est bon pour faire de la philosophie d'avoir eu des intuitions. Pour voir si ces intuitions sont vraies ou sont fausses. Vous avez peut-être eu une révélation. Mais voyez, l'intuition comme point de départ est très dangereuse. Est-ce qu'elle est très liée à l'imaginaire? Est-ce qu'elle est vraie? Je dois la critiquer. Et je critique l'intuition au nom de quoi? Au nom de l'expérience. Au nom de la réalité. C'est comme ça que je peux faire la distinction entre la vérité et l'imaginaire. Dans un rêve, est-ce que ce rêve est vrai ou pas? Quand vous vous réveillez le matin, tous les matins, vous passez du rêve au réel. Et le réel commence quand vous touchez le plancher. Et c'est un toucher. Le pied. Ou tout simplement, quand vous avez été réveillé un peu trop vite, selon votre imagination qui est encore en train de dormir, et vous dites au réveil, tais-toi, puis vous rendormez. Il y a eu un acte d'expérience externe, retrouver le réveil, chut, tais-toi, puis vous êtes endormi. Puis alors vous vous êtes réveillé naturellement, comme c'est plus agréable. Cette expérience dure. Dormir et réveiller. Et quelquefois, vous le faites plusieurs fois dans la journée, quand vous suivez des cours. Plusieurs fois dans la journée. Il n'y a pas de réveil, là. Ça se fait naturellement. Vous passez du sommeil au réveil. passer du réveil, du sommeil au réveil, le réveil, c'est toucher quelque chose qui est extérieur à vous. Le réveil, le plancher, l'oreiller, quelque chose qui est extérieur à vous. Ou la voix d'un ami, réveille-toi, il est déjà très tard. Vous écoutez l'autre. Tandis qu'au contraire, le sommeil, vous êtes dans une immanence absolue. C'est pour ça que c'est si agréable. Et quelquefois, c'est pas très agréable, un cauchemar. Vous voyez que une révélation, une intuition, tout cela présuppose quelque chose qui est premier. Tandis qu'il n'y a rien avant l'expérience externe. Si donc votre recherche philosophique veut tout absorber, être exhaustive, aller le plus loin possible, vous ne pouvez partir que d'expérience. L'intelligence présente aux sensations. L'intelligence présente au bout de mon petit doigt quand je touche cette table. Vous voyez, là, il y a quelque chose de très important à saisir. Qu'une philosophie qui cherche la vérité et qui veut ne s'arrêter à rien, c'est-à-dire qui cherche tout le temps la vérité, et sur la vérité sur l'homme, et qui veut aller le plus loin possible, je ne mets pas de frontières. La philosophie, c'est la connaissance sans frontières. C'est une connaissance sans frontières. Qui ne veut pas avoir de frontières et qui veut toujours progresser. Le philosophe sait qu'il peut toujours progresser et qu'il veut toujours aller plus loin. Parce que la réalité est beaucoup plus riche que ce que je connais de la réalité. Et le philosophe fait la distinction tout de suite quand c'est la philosophie d'expérience entre ce que je connais de l'homme et l'homme existant, Pierre. Mais je fais la différence entre les deux. Et je dis la vérité, c'est lorsque ce que je connais de l'homme correspond à cet homme existant. Ou pourrait être en harmonie avec cet homme existant. Alors je dirais que là, je touche quelque chose qui peut exister, mais qui n'existe pas encore. On m'a dit qu'il existait des cyclopes. Je n'en ai pas encore rencontré. Donc je dis, peut-être, mais je m'intéresse aux cyclopes. Voir un homme qui n'a qu'un œil sur le front. Vous avez un sens là particulier, un sens du génie, tous les génies ont un sens là particulier. C'est le témoin. D'un âge révolu. Il n'y a plus d'œil, il n'y a plus qu'un sens. Ça reste. Et tant que je ne touche pas la réalité avec, je ne sais pas, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que c'est, je ne sais pas, tant que je n'ai pas atteint, tant que je n'ai pas vu et surtout touché, mais tous mes sens externes modifient. J'ai donc l'expérience du toucher. J'ai donc l'expérience de la vue. J'ai donc l'expérience de l'odorat, de l'ouïe, du goût. J'ai 5 modalités d'expérience. Et ma philosophie, de cette manière, adhère à la réalité, au monde dans lequel je suis. Je fais la philosophie de mon intelligence liée aux 5 sens. Parce que je ne fais pas la philosophie d'un être qui, lui, aurait un autre contact avec la réalité, un autre contact avec moi, un autre contact avec les hommes. Je connais à travers mes 5 sens et l'intelligence qui se sert des 5 sens. Alors vous allez me dire tout de suite, ah mais... Descartes a dit quelque chose de très important. réflexion, c'est authentique ce que je vous dis là, la réflexion de cette brave personne du midi de la France et qui venait d'Espagne et qui pose la question, comment se fait que les cosmonautes ne partent pas toujours quand la lune est plus grande? C'est plus facile de l'atteindre. Ça a été dit, hein, dans notre 20e siècle. Je trouve ça délicieux. Vous voyez, Descartes. Ben oui, je vois la lune, elle est plus petite. Il n'y a qu'un tout petit croissant. Donc mes sens me trompent. Et à un moment, elle a bien mangé. Toute ronde, pleine lune. Je ne